vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà goal.
Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture, société et équipe de France. Avant de conclure cette troisième saison avec un débrief de la Coupe du Monde, on s'accorde une petite parenthèse avec notre dernier épisode consacré aux 11 de légende. Après le PSG, Lyon et Marseille, on s'attaque aux 11 ultimes des joueurs de l'équipe de France. Pour en parler, mon acolyte, mon gars sûr, Boris, comment ça va?
Ah, ça va bien, je suis très excité par ce 11 de légende.
Alors là, mon milieu de terrain là,
aïe, aïe, aïe.
Il le tient aussi?
Aïe,
super. Et pour compléter cette tablée, Swan Borsellino qu'on ne présente plus. Comment ça va, Swan?
Tout va bien. Toi, également très, très hypé par ce 11, mais il est très difficile. En plus, en arrivant avec Boris, on se disait qu'il y avait deux 11 à faire en fait avec les joueurs de l'équipe de France et les joueurs français, qui ne seraient pas exactement le même 11 au final.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, on va pas rentrer dans le débat forcément maintenant, mais forcément, quand on m'a parlé de 11 de légende de France, j'ai pensé typiquement, pourquoi pas un mec comme Eric Cantona, par exemple, qui a marqué l'histoire du football français de son empreinte,
d'accord,
en termes de charisme, en termes de niveau de jeu également.
Mais pas l'équipe
pour
de
autant,
France.
Est-il un membre de cette équipe de légende?
Ah, effectivement, la question se pose et je pense qu'on va en parler dans...
Si on avait des Lyonnais, on aurait pu parler de Benzema aussi, tu vois. Peut-être qu'il... Ou alors, à moins qu'il soit dans ton 11 de légende, on verra.
Je ne spoil pas. Alors, je vais juste répéter le principe pour les personnes qui débarquent. Il s'agit de déterminer le 11 ultime des Bleus, poste par poste, du gardien de but aux attaquants, dans une formation très très alléchante, un 4-4-2 en losange. Donc rien que ça, ça fait un petit peu rêver. Bon, c'est pas toujours très objectif, mais en même temps, c'est pas forcément le but. On est aussi là pour prendre du plaisir, s'amuser, balancer plein de noms comme ça, histoire de ressasser un peu aussi l'histoire de l'équipe de France, les joueurs qui nous ont fait rêver, ou moins rêver d'ailleurs. Donc c'est tout l'objet de cet épisode. Et on va commencer tout de suite par le premier poste, celui de gardien de but. Qui vous avez mis comme gardien de but de l'équipe de France, Swan?
Je vais tout de suite être accusé de tropisme marseillais, je pense, Abdallah. Donc tu vois où je veux en venir.
Oui, on est ensemble.
C'est un poste qui, paradoxalement, je pense, est celui qui m'a posé le moins de problèmes. Avec tout le respect que j'ai et pour Joël Batz et pour Hugo Lloris, pour moi et pour Bernard Lama, Boris, arrête de me regarder comme ça. Il m'a pas regardé, mais il me regardait quand même avec son cerveau, me regardait. Pour moi, c'est Fabien Barthez.
Pareil.
C'est Fabien Barthez. Déjà par l'espèce de charisme sympathique, qui est un truc qu'on a retrouvé, je trouve, chez très peu de joueurs. C'est-à-dire que généralement, quand t'as un mec charismatique, c'est soit un charismatique méchant, soit un charismatique leader. Lui, c'était un charismatique différent. C'est un personnage de BD. C'est un mec qui tire son équipe vers le haut par la bonne humeur, je dirais. Si ce terme horrible n'existait pas déjà, je dirais qu'il était peut-être happiness manager de l'équipe de France à l'époque. Mais voilà, Fabien Barthez, déjà pour le sportif, parce que c'était quand même un gardien d'une énorme qualité, un gardien différent par sa taille, par ses qualités, par son jeu. Moi, je sais que voilà, étant plus jeune à l'époque, j'aimais beaucoup le fait que ce soit dans des matchs un peu plus tranquilles ou notamment dans les jubilés un peu après, il avait toujours cet appétit du but, cet appétit du jeu. On parle beaucoup du gardien moderne aujourd'hui. Je sais que Fabien Barthez, c'est un mec qui aimait jouer au foot avant tout. Et puis pour les triomphes de l'équipe de France et peut-être pour la publicité, pour le Big Mac aussi qui a marqué ma jeunesse.
Iconique publicité. Toi, Boris, t'es pas trop chaud sur Barthez?
Ah bah, il a rendu les chauves hyper cool quand même, parce que c'était pas gagné. Hein. Avant lui, je me rappelle pas d'avoir connu un chauve aussi cool et un chauve gardien de but aussi cool. C'est encore plus compliqué. Je rejoins Swan sur de nombreux points concernant Fabien Barthez. Ce côté en fait leader et en même temps finalement assez discret dans les médias. C'est pas quelqu'un qui se mettait en avant plus que ça. Et on avait tous l'impression de le connaître. Il y a un paradoxe qui est... je trouve qu'il entoure Fabien Barthez et dont les qualités ne sont plus à démontrer, puisque quand tu regardes son palmarès, c'est un peu compliqué de finalement trouver quelque chose à redire.
Le tout en fumant, en plus.
Il n'avait pas besoin de courir énormément, heureusement. Bon, il y en a d'autres que ça n'empêchait pas, hein, mais on y reviendra sûrement après. Mais en fait, c'est vrai que Bernard Lama, moi, j'ai une affection toute particulière pour ce gardien. Je trouve qu'il perd sa place sur un finalement un petit détail de l'histoire qui est sa suspension pour consommation de cannabis, où il est suspendu 6 mois, et c'est ça qui lui fait perdre sa place au profit de Fabien Barthez. Donc on ne saura jamais.
Au mondial si... 98. Hein.
Avant, ouais. Donc, pour le mondial, il est numéro 2 au mondial 98. D'ailleurs, il refuse de jouer un match. Il s'était expliqué il y a pas très longtemps, il y a un an, l'an dernier, quand ils ont sorti le documentaire sur les Bleus 20 ans après. Sur comment il a vécu les choses et pourquoi il avait décidé de ne pas jouer ce match-là. Et on sent l'inimitié avec Fabien Barthez, d'ailleurs. Toujours est-il que, pour revenir sur le sportif, Bernard Lama, c'était un gardien, je pense, à part dans l'histoire du football. Donc, il n'y en a pas eu deux comme lui, avec ces qualités-là, d'explosivité, de détente, ce côté spectaculaire aussi, dans les arrêts, d'aller chercher des ballons en faisant des sortes de trucs de gymnastique, je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais c'était un acrobate un petit peu. D'où, encore une fois, l'affection particulière que j'ai pour Bernard Lama. Mais mon cœur balance. Hein. Je regardais Swan, mais en même temps, quand on en parlait, quand on en parlait avant, c'est compliqué de pas mettre Fabulous Fab quand même dans ce 11 de légende.
Effectivement, et tu l'as cité, Swan, c'est Hugo Lloris aussi. Qu'est-ce qui lui manque? Parce que moi aussi, j'ai mis Fabien Barthez, mais qu'est-ce qui lui manque pour détrôner le divin chauve, justement, de cette place de gardien de but ultime? Est-ce qu'il pâtit pas d'un manque un peu de hype, ou pas de sympathie, parce que je pense qu'il est très sympathique et les gens le pensent sympathique, mais il lui manque un petit truc, quoi, dans sa communication.
Je pense que quand on dit 11 de légende, en tout cas comme ça, quand on y pense, évidemment, le mot le plus important, c'est légende. Mmh. Et Hugo Lloris, il a ce truc. L'analogie est étrange, hein, mais pour moi, c'est un peu le François Hollande des gardiens français. Il est un peu trop normal, peut-être, pour être légendaire. C'est-à-dire que probablement, récemment, je me suis fait plaisir, peut-être pour les un an du but de Benjamin Pavard qu'on a fêté hier, je me suis remis la Coupe du Monde d'Hugo Lloris. Fabuleux niveau, pas de souci là-dessus. Et puis les Lyonnais le diront, les supporters de Tottenham le diront, il a un niveau de jeu extraordinaire. Mais c'est vrai que pour passer ce pas de légendaire, surtout un poste aussi charismatique que celui de gardien de but, parce qu'on vend souvent ce poste comme le poste des zinzins, le poste des fous, le poste des mecs. Enfin, t'as des Buffon, des Casillas, t'as eu des Yashin, t'as Neuer, enfin des mecs qui, soit physiquement, soit psychologiquement, étaient des gars archi charismatiques. Et Lloris a toujours été, et il en est fier, je pense, un peu en dehors de ce cadre-là. Voilà, je pense que c'est en ça qu'il ne figure pas là-dedans. Mais sinon, il est bienvenu au Panthéon des gardiens français, quand même.
Un type normal, quoi, Boris.
Au Panthéon des gardiens français, donc il serait peut-être dans le top 3. Mais pour moi, derrière Lama et Barthez, ne serait-ce que par ses qualités, où je pense qu'il est très, 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 très fort, mais il est moins fort que les deux qu'on a cités à haut.
Non, je ne mets même pas Joël Batz.
Joël Batz, on parlait de charisme aussi. Joël Batz, il est quand même...
Par contre, je mets Lloris devant Joël Batz en termes de talent.
Ok. Donc toi, il n'est pas dans le top 3 Batz?
Non.
D'accord. Parce que moi, je n'ai pas Lama dans le top 3, pour le coup.
Pour moi, c'est Barthez, Batz, Lloris.
Pareil.
À moi, Batz, il n'est pas dedans. Et je pense que je pourrais même le mettre 5e. Je mettrais même Bruno Martini presque devant. Hein. Parce que Batz il a aussi ce truc où il a bénéficié d'une charnière centrale de ouf devant lui, ce qui n'était pas le cas de Bruno Martini, par exemple, et que je pense que c'est un des gardiens les plus sous-cotés de l'histoire du foot français, ne serait-ce qu'à cause de l'Euro 92, mais c'est encore autre chose. Non, Batz, après, je sais pas, charismatique, oui, mais en termes de qualité, je sais pas. Et tu vois, c'était pas le plus grand des gardiens non plus. Tu vois, à une époque où être grand, c'était pas un problème, il compensait pas par d'autres trucs. Je pense que la victoire à l'Euro 84, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour Joël Batz.
Ok, très bien. Bon, en tout cas, on part sur Fabien Barthez, gardien titulaire de cette équipe de légende. On va enchaîner sur la ligne de 4, donc les 4 défenseurs, les 2 centraux et les 2 défenseurs latéraux. Qui vous avez mis? On va commencer par toi, Boris.
On commence par quoi, là?
Alors, on commence par les centraux, tiens, pour changer.
Hi. Les centraux. Lilian Thuram. Ouais, ça, c'est non négociable, je pense, pour moi, au moins sur ce poste. Enfin, en même temps, c'est compliqué, mais Lilian Thuram et Marcel Desailly.
Ok.
Donc, charnière, plutôt charnière. C'est le Lilian Thuram de 2006.
Toi, c'est Thuram 2006, ok, ouais.
Thuram 2006 et Desailly 98. Tu vois, si on les prend comme ça...
Ok, moi, j'en ai aucun en commun avec toi.
Moi non plus, mais ouais. Je pense qu'on a la même, du coup.
Ah, je suis pas sûr, vraiment, je suis pas sûr. T'as qui, toi, Swan?
Pour moi, c'est le président Laurent Blanc.
Je l'ai.
Et Marius Trésor.
Ah bah si, en fait, moi je te serre la main, ça se voit pas...
Mais t'es que des Marseillais les mecs, c'est bien.
Non mais alors que ce soit clair...
je m'attendais pas à voir quelqu'un avec la même charnière que moi, vraiment.
Il y a deux choses. Déjà, si je devais titulariser Lilian Thuram dans cette équipe-là, ce qui est possible, je le dis bien, il jouerait un autre poste.
Pareil.
Ah bah moi je suis pas d'accord.
En fait, pour moi, en DC, la concurrence était telle, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas cité, hein, qui sont costauds encore une fois, que c'est pas là que je l'aurais mis. Ensuite, Laurent Blanc, pour moi, c'est presque autant, si ce n'est plus, et j'aurais vraiment forcé, donc je vais me corriger maintenant, c'est autant que Zizou, le titre de 98. Sincèrement, émotionnellement, je pense que j'ai rarement été aussi triste que quand il a été exclu contre la Croatie. Parce que je trouve que moi, c'était un âge où je découvrais un peu le côté humain dans ce sport-là, où j'appréhendais le foot, etc. Et au moment où tu comprends que le gars, il va pas jouer la finale, alors que c'est probablement un des meilleurs défenseurs du monde, et que on lui enlèvera pas la Coupe du Monde, mais on lui a enlevé un truc gigantesque au profit de Franck Leboeuf, en plus voilà. Mais voilà, pour moi, Laurent Blanc, c'est le défenseur français dont je parlerai à mon fils, quoi.
Ouais. Et du coup, sur Marius Trésor,
parce qu'on a appelé ça un 11 de légende et que j'ai pas eu la chance de le voir jouer ailleurs que sur YouTube ou dans des documentaires, mais il a laissé pour moi un héritage gigantesque, voilà. Et pour moi, c'est lui, sacré Marius.
Moi, j'ai encore sa reprise de volée en tête quand je pense à Marius Trésor, c'est ce but contre l'Allemagne dans ce match de légende France RFA en 82. Et puis sur Laurent Blanc, c'est un tout, quoi. C'est un défenseur ultra élégant. Il a commencé, il était milieu offensif, il me semble, quand il commence sa carrière. Ensuite, il recule.
À Montpellier, je vous dis, il faut savoir que c'est le joueur, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier.
Déjà, ça marque un peu l'histoire. Et puis, il y a ce but contre le Paraguay, il y a toute sa carrière. Et tu le disais, sa Coupe du Monde 98. Elle est juste, moi, il me laisse vraiment une très 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 bonne image, une très bonne impression aussi lors de ce Mondial 98. Donc j'étais obligé de le mettre. J'ai hésité avec De Sailly pour compléter, mais j'ai mis Marius Trésor parce que, comme l'a dit Swan, c'est aussi le côté légende, et je voulais aussi mettre un peu de cette équipe de 84 dans mon 11 de légende. Alors,
si moi je devais revenir un peu sur mes choix, parce que je l'ai pas fait, ça serait déjà de commencer par le fait que. Alors, Laurent Blanc, j'ai longuement hésité avant de choisir entre ces trois-là. Je ne savais pas comment les articuler, mais c'est Laurent Blanc aurait pu y être, il n'y est pas. Mais je concède tout ce que vous avez pu dire sur Laurent Blanc, il n'y a que des vérités. Néanmoins, je ne peux pas ne pas mettre Marcel De Sailly, qui, à mon sens, a donné l'équilibre dans cette charnière centrale de 98. Et Laurent Blanc n'aurait pas été Laurent Blanc en 98 s'il n'y avait pas eu Marcel De Sailly, parce qu'il offrait la puissance que n'avait pas Laurent Blanc, il offrait la hâne dans les duels que n'avait pas Laurent Blanc, alors que Laurent Blanc, il offrait ce gage de sécurité technique, vision du jeu, capacité à éliminer les attaquants, s'il fallait mettre un dribble, il mettait un dribble, de relancer long, relancer court, il avait tout techniquement. Encore une fois, je pense que Marcel De Sailly, il équilibrait parfaitement le duo avec tout le côté... Voilà, puissance, rock, défensif, etc. Lilian Thuram, en 2006, c'est lui la charnière centrale. C'est lui, si on va aussi loin en Coupe du Monde, c'est parce qu'il est repositionné dans l'axe et il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Et pour moi, c'est là où la limite de Laurent Blanc, c'est que finalement, en équipe de France, les faits d'armes, tu vois, ils sont sur 2 ans. Là, Lilian Thuram, on parle d'un joueur qui a une densité qui part de 96 jusqu'à 2006. Il est au top. Du football mondial, et il a tenu la défense de l'équipe de France pendant 10 ans. Et si ça fait pas de lui une légende de l'équipe de France, je sais pas ce qu'il nous faut de plus pour dire que Lilian Thuram, il est pas dans son sens là. Ou alors il est à droite, mais pour moi, c'est pas lui le meilleur à ce poste-là.
Juste pour revenir sur Thuram en tant que défenseur central en 2006, on parle souvent du match de Zizou contre le Brésil en quart de finale.
Il fait un match de cochon.
Mais le match de Thuram contre le Brésil, c'est un cran au-dessus.
Mais
vraiment.
Contre l'Espagne aussi, où il éteint complètement l'attaque espagnole. Tu vois, c'est contre le Portugal. Enfin, t'as que des matchs références dans cette Coupe du Monde-là pour Thuram. C'est extraordinaire.
C'est vrai qu'il a failli, faire le cut aussi comme De Sailly, mais voilà, j'ai préféré Blanc Trésor. Je suis à deux doigts, vraiment, je suis à deux doigts de de le mettre, moi, je vais rester là-dessus.
Moi, je vous avoue que Trésor, j'ai du mal à me projeter parce que pour moi, c'est Desailly dans un autre football que je connais moins et dont les caractéristiques, finalement, elles ressemblent à Desailly. Sauf qu'encore une fois, Desailly, il a un palmarès qui éteint celui de Marius Trésor. Donc, j'ai du mal à m'identifier à Marius Trésor. Peut-être que c'est générationnel.
On est là pour rêver, Boris.
Bah oui, mais moi, je t'avoue que Marcel, il me fait rêver. Enfin, le joueur qu'il a été, le palmarès.
Je dis pas qu'il fait pas rêver, hein. Mais
Non, mais si tu me dis que je suis là pour rêver, j'ai envie de rêver avec Desailly. Et moi, ça, j'arrive pas à rêver avec Marius Trésor, c'est tout.
Non, c'est juste que voilà, Trésor, moi, je l'ai pas vu jouer tous les week-ends comme j'ai pu voir jouer d'autres joueurs. Mais il y a ce côté un peu cette part de rêve, d'imaginaire sur des images. Tu te bases sur quelques images que t'as pu voir.
Mais je l'ai
à
avec
droite,
d'autres mecs de 84, mais pas lui. Enfin, tu vois, enfin de la génération. Quand je dis 84, de cette génération là, de 82 à l'Euro 84, ouais. La Coupe du Monde 86. Et Marius Trésor, j'en ai entendu beaucoup parler, mais dans ce que j'ai vu, c'est pas forcément lui qui me laisse le plus grand souvenir. Mais...
Ok, bon, vu que c'est la démocratie qui choisit dans Banquette, on part sur une charnière blanc Trésor. Bon, on va rester avec toi pour les latéraux, du coup. T'as pris qui?
Alors, Willy Sagnol à droite.
Ouais.
Ça aurait pu être Thuram, mais du coup, c'est Willy Sagnol parce que, encore une fois, et la continuité, et ce qu'il a apporté au poste, parce que je pense qu'aussi, lui, c'est un précurseur dans cette capacité qu'il avait, et à la fois d'être très bon contre-attaquant, très fort offensivement, mais aussi un très bon défenseur, et pas forcément les gabarits qu'on avait l'habitude de voir, genre petit, et, avec un centre de gravité très bas et qui court très vite, etc. Willy Sagnol, il a apporté, je trouve, un peu de classe au poste d'arrière-droit. Et à gauche... À gauche, mon cœur balance parce que j'ai envie de mettre Lisa, Bichente Lizarazu. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé Luca Hernandez à la dernière Coupe du Monde et que c'est la rigueur qu'il a rapportée sur ce poste alors que c'est un décès de formation. Ça balance aussi, mais je dirais j'ai un petit voilà, Sagnol à droite et Lizarazu à gauche.
Alors moi, sur le poste à droite, j'ai hésité entre, je présume le choix de Swan de Thuram et Sagnol, mais je vais partir sur Sagnol pour tout ce que t'as dit. Moi vraiment c'était, quand je le voyais, je le trouvais très très fort. J'avais jamais vu un arrière droit aussi fort. En fait, je fais waouh, en fait c'est ça un arrière droit, c'est enfin si.
Et
c'est
la qualité de centre, hein, j'ai oublié. Mais
qualité de centre incroyable qu'on a plus après pendant des années quand il est parti. Qu'on a toujours pas d'ailleurs. Et ce qui lui a manqué, je pense, c'est un titre avec les Bleus. Je pense que cette Coupe du Monde 2006, vraiment, ça aurait validé sa place dans l'imaginaire au Panthéon.
Il avait fait le centre pour, en plus. Hein, mais,
ouais.
Le centre.
Malheureusement, Buffon...
ouais.
Voilà. Donc moi, je pars sur Sagnol à droite. Et à gauche, Lizarazu, parce que c'est l'enfance. Moi, Lisa, c'est l'enfance. C'est le petit mec qui joue au foot et qui est très fort. Et qui est pote en plus avec le...
Avec son maillot trop grand.
Qui est pote avec le meilleur joueur de l'équipe, et qui est Zinedine Zidane. Donc, ouais, Lisa à gauche et Sagnol à droite. Et toi, Swan?
Alors, à droite, j'ai parlé de Lilian Thuram tout à l'heure pour une raison assez évidente. C'est d'avoir grandi déjà avec son doublé contre la Croatie, évidemment. Puis de l'avoir pris à ISS Pro alors qu'il était extrêmement fort. Peut-être un des seuls à pouvoir arrêter Babangida à l'époque. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à me défaire du fait que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à apprécier l'homme. Et pour moi, dans un 11 de légende complètement subjectif, ça compte. Willy Sagnol, je pense que je suis d'accord avec vous sur la qualité technique, notamment moi qui suis un amoureux des beaux centres. Je pense qu'on a été bien lotis avec lui. Mais on va me taxer d'être 100% marseillais, mais moi j'ai envie de mettre Manuel Amoros. Voilà, parce que...
Il est dans la liste.
Il est dans la liste, déjà, peut-être qu'il était dans la vôtre. Mais en fait, c'est assez bête, mais je trouve que c'est un nom qui a marqué l'histoire du football français, peut-être plus que certaines de ses illustres prestations par rapport à celles de Lilian Thuram et Willy Sagnol, qui ont des classiques ESPN à leur actif. Mais puisque de toute façon la démocratie votera et que son nom mériterait son nom méritait d'y figurer, je vais mettre Manu Amoros. Et à gauche, je pardonne son passage marseillais à Bichente Lizarazu, pour le coup.
Tu lui pardonnes cette passe en retrait?
Je lui pardonne tout pour trois raisons. La première, c'est d'être arrivé comme il l'a fait à s'imposer au Bayern Munich à l'époque, dans une équipe qui était extraordinaire. Je pense que ça témoigne de son talent et de sa force de caractère. De deux, je pense que avant même l'époque où aller à la salle de muscu était à la mode, il a quand même mis au goût du jour ce fameux leg day, parce qu'il avait des cuisses du futur Voilà. Et la troisième bonne raison, c'est que étant petit, je jouais latéral gauche et que avant qu'on me compare pour de très mauvaises raisons physiques à Benoît Tremoulinas, j'ai regardé attentivement Vicente Lizarazu.
Ok. Et ta passion pour le surf aussi, non?
Ouais, et le fait que je mette du pétrolane dans mes cheveux.
Tout s'explique.
Voilà.
Tout s'explique.
Moi, je vais dédicacer Bernard Mendy, puisqu'on a, on est sur l'affectif aussi. Et juste, ne serait-ce que pour son débordement sur Roberto Carlos, et on retiendra que ça.
Ça, on va taper Bernard Mendy, Brésil sur YouTube.
Ouais. Ça, mais je l'avais mis dans mon 11 de légende du PSG, je pense.
Je crois que je l'avais mis, il me semble, aussi. Mais c'est possible. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs qui auraient pu prétendre?
Qu'on aurait pu retenir.
J'ai l'impression que dans le football moderne, c'est vraiment le poste où on a du mal à dégager des noms, à sortir des noms, parce que c'est très dur en fait d'avoir des très très bons latéraux. C'est pour ça qu'ils partent très très cher d'ailleurs. À gauche, on a cité Lisa, mais
à droite, ça a été compliqué après Willy Sagnol de trouver de toute façon.
Il y avait l'espoir Angloma à l'époque.
Ouais.
On avait cru.
Mais Jocelyn Angloma, c'est l'Euro 96 du coup. Ouais. C'est encore avant. Non mais je cherchais après. Après, j'ai pas trop le souvenir des noms qui soient restés, tu vois.
Patrice Evra.
À gauche, mais ah, oui, non, à droite. Non,
pardon.
À droite, on a eu pendant très longtemps Bakary Sagna. Ouais, on a eu des Réveillères.
Debuchy.
C'est des mecs qui ont jamais vraiment convaincu, tu vois, qui sont des bons joueurs de foot, mais qui ont jamais vraiment convaincu.
Et puis on s'est traîné des Vincent. À force de travailler avec lui, François Clair.
François Clair, on était là quand même à une période qui pouvait jouer à droite et à gauche.
Second poteau Pavard.
Ouais, mais bon,
on excusera tout.
On excusera tout pour
jusqu'à la fin.
Je suis pas sûr. Hein.
si on lui excusera tout parce que il est champion du monde et c'est très bien comme ça. Après, footballistiquement, sur le poste d'arrière droit.
C'est pas un
arrière droit de formation. On va pas lui faire ce procès-là aujourd'hui. Mmh. Mais c'est pas un nom que je retiendrai, à mon avis, sur le poste d'arrière droit dans l'histoire des Bleus.
Ok, très bien. Donc, du coup, on part sur une défense à gauche. On a Vicente Lizarazu. À droite, Willy Sagnol. Et en charnière centrale, Laurent Blanc, Marius Trésor. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Je trouve que c'est une équipe qui a peur de rien avec une défense comme ça. Et c'est parfait. Et là, on passe au milieu de terrain. Je dis ça avec un grand sourire parce que c'est terrible. Que, juste pour les auditeurs et les auditrices, en préparant cet épisode, j'ai envoyé un message à Boris. Je fais, mais en fait, on part sur quelle formation? Il me dit, 4-2-3-1 ou 4-4-2 losange, vu que c'est l'équipe de France. Et je lui dis, moi, j'avoue que le 4-4-2 losange, ça m'enjaillerait bien parce que j'avais déjà pensé à qui j'allais mettre. Et du coup, j'ai pensé aussi à Hidalgo. Qui faisait jouer son équipe, donc c'est le sélectionneur des Bleus dans les années 80.
En losange,
il jouait avec trois numéros 10. Et je m'étais dit, moi aussi, je vais jouer avec, dans mon équipe de France de légende, il y aura trois numéros 10. Donc, j'ai Zidane, j'ai Platini et j'ai Raymond Kopa, qui sont aussi, j'ai envie de dire, les trois plus grands joueurs de l'histoire, peut-être pas les trois plus grands joueurs, mais parmi les plus grands joueurs de l'histoire du foot français. Et les trois plus grands numéros 10, d'ailleurs, du foot français. Donc, je les ai mis là. Et en point de basse, j'ai mis Vieira. Ouais. J'étais obligé de mettre Vieira. Il n'y a pas Deschamps. J'ai mis Vieira. Donc, mon milieu, c'est ça. C'est Vieira, Zidane, Platini, Kopa. Voilà, je balance ça. Démerdez-vous après, ouais. Non, Swan, t'as mis qui, toi?
C'est tellement dur. C'est tellement dur parce que c'était un poste où on était très fourni et il y a eu le carré magique déjà qui est quand même iconique de l'équipe de France.
Et là c'est la guerre quand même parce que quand tu dis ça, tu te mets un problème.
Non, tu te mets un problème parce que là Abdallah a parlé de Vieira, oublié.
Oui, il y a pas Tigana,
il y a pas Claude Makélélé, voilà.
Pas Giresse.
Personnellement, je suis incapable de pas mettre Didier Deschamps. Voilà. Pas forcément pour les raisons sexy football champagne qui anime Abdallah.
Soit il fait un 11 de légende de Olympique de Marseille / équipe de France en fait.
Non, mais pour moi, légende, ça arrive avec gagne. Et pour le coup, Didier Deschamps, et je ne mets même pas le fait qu'il l'ait gagné en tant que sélectionneur. Hein. Ça nous regarde pas aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'il a été d'une importance cruciale dans ce qu'a été l'équipe de France depuis les années 90. Et c'est très difficile de se passer de lui aujourd'hui. Ensuite, j'avais pas envie du tout que l'émission dure 5h30. Du coup, j'ai pas du tout envie non plus de rentrer dans un débat Zidane Platini. Donc, les deux iront dans cette équipe-là.
Parfait, on est d'accord.
Je te rejoins sur ce que tu disais sur Raymond Kopa. mais je vais faire ce que j'appelle une Boris, c'est que j'ai que du respect pour ses records et qui il a été, mais j'ai en revanche aucune sensibilité par rapport à ça. Et je vais mettre Alain Giresse.
Ok.
Parce que je trouve qu'il a été un peu le précurseur du joueur frisson, du mec qui avait pas le gabarit, du... Et puis cette course, enfin voilà, moi j'ai pas pu voir le match en direct parce que j'étais pas né, mais le voir cavaler avec sa tête de, enfin voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour ce joueur-là et il était extrêmement fort. Surtout.
Extrêmement fort.
Et voilà, moi pour moi l'équipe de France, c'est, je pense que si on demandait un peu à l'étranger aux gens qui s'intéressent au football, qui s'intéressent vraiment, sortis de Platini et Zizou, je pense qu'Alain Giresse c'est un nom qui devrait revenir assez souvent. Et pour moi, voilà, on parle de légende aujourd'hui. Il a vraiment marqué l'histoire du foot français. J'ai envie de le voir dans mon milieu. Et j'ai une petite pensée pour Luis Fernandez aussi, quand même.
Bah, moi, c'était en fait sur Copa. C'était soit Copa, soit JRS. Ouais. Mais du coup, j'ai choisi un peu le... J'ai voulu faire un peu d'histoire. Donc du coup, j'ai mis Raymond Copa. T'as mis qui, toi, du coup, Boris?
Bah, le souci, c'est que c'est la guerre à chaque poste de ce carré-là, enfin, de ce losange-là, plutôt. Bon... Je vais déjà valider avec vous ceux sur lesquels il n'y a pas de débat, à savoir que Platini et Zidane, pour moi, ne sortiront pas de ce losange. Si je dois préciser les postes, avec Platini en 10, vraiment derrière les deux attaquants.
Ouais, et Zidane un peu à gauche.
Et Zidane un peu à gauche.
Ouais.
Là où il va y avoir un peu plus de débat, je pense que j'ai très envie de mettre Patrick Vieira, mais je ne vais pas le mettre à un poste aussi défensif. C'est-à-dire, je ne vais pas le mettre en point de basse, parce que c'est un joueur qui est capable de... doué, surdoué techniquement, surdoué physiquement, qui est du titre de 98, qui est du titre de 2000, qui a surnagé jusqu'en 2006, qui, s'il se blesse pas, donc ça se trouve on est champion du monde, hein, j'en sais rien, même si Alou Diarra a fait une très bonne, très bonne finale, c'est pas la question. Mais en tout cas, Patrick Vieira, monument du football français, moi je ne peux pas ne pas mettre Patrick Vieira. Et là où je vais peut-être rejoindre Swan, c'est que pour moi, il ne peut pas y avoir d'équipe de France sans Didier Deschamps aujourd'hui. Parce qu'il a apporté au football français de cette culture de la gagne qu'on n'avait pas eu jusque-là, à savoir qu'en 84, on est tellement meilleur qu'il n'y a pas trop de débat. Mais c'est pas forcément le mental qui a fait la diff. En Europe, il n'y avait pas mieux que nous. En 82, 86, ça ne se joue à pas grand-chose. Sur cet euro-là, finalement, on est au-dessus, c'est comme ça, ça ne se discute pas. Mais tu vois, Deschamps, il a complètement fait basculer le football français dans un truc où aujourd'hui, gagner une deuxième étoile avec une équipe qui n'était peut-être pas forcément la meilleure équipe du monde sur le papier, c'est devenu possible. Ça, c'est grâce à Didier Deschamps et c'est grâce à ce qu'il a impulsé même sur le terrain. Donc ouais, c'était pas le plus sexy, c'était pas le plus technique, c'était pas le plus beau à voir jouer. Mais pour moi, il est indispensable dans une équipe, dans cette équipe de France-là, d'un 11 de légende, il n'y a pas Didier Deschamps. Enfin, Didier Deschamps, il n'est pas absent, en tout cas. Impossible.
Bah, ça se comprend. Après, moi, j'ai fait le choix un peu... du beau jeu, de l'esthétisme aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis Vieira seul.
Ça, on le voit avec tes contours. Tu fais toujours le choix du beau et de l'esthétisme.
Toujours. Même si en vrai, il faut que je retourne chez le coiffeur pour les refaire là. Mais,
j'aime bien te flatter.
Merci. Mais concrètement, ouais, c'était le choix. C'était soit, par exemple, un mec comme Makelele, que je trouve, qui est pour moi peut-être le meilleur milieu défensif en termes de niveau de jeu, en termes de talent de l'équipe de France. J'ai pas réussi à le mettre. Parce que j'ai fait un choix de jeu, mais c'est compliqué.
Après, ouais, si tu me demandes, hein, moi je te dis que Makelele est peut-être meilleur que Deschamps, mais la question c'est pas celle-là.
On parle de légende de toute façon.
C'est pour ça que je n'ai pas mis Makelele d'ailleurs. Ouais.
Mais je voudrais juste, avant qu'on passe aux attaquants, sortir un nom du chapeau. Mm-hmm. C'est que parfois, quand on parle de foot entre potes, avec sa famille, etc., parfois j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point Emmanuel Petit était fort.
Ouais, il a rendu la queue de cheval cool aussi.
Non, mais parce que sincèrement, en fait, c'est vrai que je sais pas si c'est parce que parfois il divague un peu dans ses pensées, dans son post-carrière.
Je pense qu'aujourd'hui, ça le dessert.
Mais son niveau de jeu
à Arsenal,
en équipe de France, c'était incroyable.
À les Invincibles, c'est incroyable. Grâce à lui, hein.
Le gars était archi fort, complet, il se projetait et marquait des buts. Il était super fort, mais voilà, pour moi il peut aucunement postuler à une place dans ce milieu à 4 parce que les noms qu'on a évoqués, mais il méritait d'être cité.
Attends, je viens de dire une connerie parce que j'ai parlé des Invincibles, mais je pense
non, que c'est pas la même période. Non, il était déjà plus au clair. Par contre, Vieira y était.
Exactement. Ça, c'était c'est Gilberto sûr. Silva, même. Ouais, ouais. Bref, je...
Et par exemple, aussi, il y a un truc que je voulais souligner, c'est sur le poste de numéro 10, on a eu plein de numéro 10 en équipe de France, mais qui n'ont pas réussi à s'imposer parce que soit il y avait plus fort qu'eux, je pense à Mikou, typiquement.
Marvin Martin
Non, mais...
Le Zidane de la Weiser, c'est ça. Yoann Mikou.
Yoann Mikou, genre...
Tu vois, tu pensais à Mourad Megni, je pense, Swan.
Non.
Et toi, t'en as eu d'autres aussi, Vercruis aussi, enfin, qui n'ont pas réussi justement à s'imposer en équipe. Vercruis, c'est pas parce qu'il y avait Zizou, mais voilà, on a eu plein de numéro 10 en équipe de France, mais ce qu'on retient Gourcuff. Vraiment dans l'histoire, c'est Gourcuff, c'est Coppa, Platini, Zidane et même Giresse aussi d'ailleurs.
Et on aurait pu remplacer une pour Robert Pires, ton gars sûr, Swan. Parce qu'en équipe de France, il a quand même été extraordinaire. Ouais. À l'Euro 2000,
qu'il a mis un double contact à l'Euro 2000, peut-être.
Ouais, mais.
Voilà, non, mais bien sûr, et un centre en retrait.
aussi.
Ce qui nous emmène à parler des attaquants, du coup.
Quelle transition, il est très, très fort. Très, très fort. On sent qu'il fait de la télé. Hein.
On sent, ça se sent.
Du coup, on est sur une attaque à deux. Alors, qui sont tes deux pointes, Swan? Ah non, juste avant, j'ai pas récapitulé, pardon, le milieu de terrain. Donc, on est, je dis, dans le désordre. Hein, donc, c'est Vieira, Deschamps, Zidane, Platini. On est bien.
Ça peut évoluer sur un 4-4-2, pas losange, où ils ont un droit à un gauche, c'est ça.
Voilà, exactement. Donc, du coup, je te laisse enchaîner sur les attaquants.
Alors, il faut savoir que j'ai mis du cœur à préparer cette émission, Abdallah, mais à la fois, j'ai pas mis de cœur dans ma préparation. Dans le sens où là, les deux attaquants que je vais te donner sont peut-être... deux des attaquants de l'équipe de France qui peut-être sont pas ceux qui me font vibrer, mais pour moi ils sont, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre. Je te sors une doublette JPP Thierry Henry.
Ah ouais, JPP, je m'attendais pas. Henry, ça me paraît très évident, mais JPP, je m'attendais pas.
Non, mais parce que là, depuis le début, on parle de trophées, on parle de l'importance d'avoir gagné avec l'équipe de France. Je pense que, il me semble qu'on en avait parlé le jour où on avait fait, et je vous invite à le réécouter d'ailleurs, le podcast sur le 11 de légende de l'OM. Je pense que en termes d'attaquant iconique français, voilà, JPP, il est là.
Ballon d'or 91.
Voilà, notamment, et pour l'esthétisme de ses buts, pour sa présence dans la surface, pour tout ce que tu veux. Thierry Henry, je pense que c'est difficile aujourd'hui, au même titre, de se passer de Platini et Zidane, de pas en parler. On va pas forcément revenir sur l'épisode de sa main ou quoi que ce soit. C'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais je pense que c'est quelqu'un qui a quand même tiré l'équipe de France vers le haut, quoi qu'on en dise. Mais par contre, parce que j'ai envie de le dire, si tu m'avais demandé ma doublette de cœur, j'aurais mis Trezeguet Cantona.
Ah ouais, tu vois, on est complètement sur des choix un peu étonnants. Trezeguet, ça peut se comprendre, même si moi, je ne le mets pas du tout dans un 11 de légende, mais ça peut se comprendre. Cantona, j'ai plus du mal à comprendre, tu vois.
Bah, c'est le paradoxe que je t'expliquais en début d'émission par rapport à ce que tu as fait dans ta carrière en équipe de France et par rapport à ton influence dans le football français.
Parce qu'on est d'accord que si on fait un 11 de légende sur Manchester United, il y a pas de débat. Cantona, il rentre dedans... tous les jours, quoi.
Oui, bah, c'est sûr, bah, probablement de...
Ou même
de...
dans 11 de légende du foot français sans parler de l'équipe de France.
Et de la JOCR également.
Et de la JOCR et d'autres clubs. Mais ouais, ok, pas mal. Boris ?
Alors Thierry Henry, tous les jours.
Ok.
Thierry Henry, tous les jours. Encore une fois, la Coupe du Monde 98, ça l'a fait découvrir à la France du foot, je pense. Même s'il était déjà fort avant, hein, mais c'est ça qu'il a révélé aux yeux du grand public. Il a fait une immense carrière, il a porté l'équipe de France pendant très longtemps et il a même pris sur lui, tu vois, tu parlais de la main, mais je pense qu'il a porté sur lui les coups que pouvait pleuver, qui pouvait tomber sur l'équipe de France. Je le respecte énormément pour ce qu'il a apporté au football français et puis bon, pour le joueur après en lui-même. En revanche, tu vois, Jean-Pierre Papin, pour moi, c'est la France qui perd, quoi.
Est-ce que la France qui perd est forcément pas légendaire? C'est ça la question.
On parlait de Deschamps tout à l'heure et pour moi, il a sa place en équipe de France parce qu'il a apporté un truc de la gagne. Et Jean-Pierre Papin, c'est genre le mec fort mais qui a rien apporté au foot français en équipe de France, pardon.
Bien sûr, mais si on parle de gagne, dans ce cas-là, il y a quand même beaucoup de pays qui vont pas pouvoir faire leur 11 de légende, quoi. Tu vois,
c'est vrai.
C'est aussi ça.
Vrai.
c'est aussi
mais
ça.
Mais autant Quantum me fait rêver et autant JPP, il m'a jamais fait rêver. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter.
Je comprends.
Avec,
non, mais je comprends. Mais c'est juste. Mm-hmm.
Par contre, moi, c'est Youri Djorkaeff.
J'ai failli te dire que. Mais pour moi, il y a un truc un peu compliqué. Abdallah, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est quel est le poste de Youri Djorkaeff?
Exactement. J'allais dire qu'il a un poste un peu bâtard. Il peut jouer 10, 9, 9,5.
À l'Inter, Youri Djorkaeff, il jouait justement 9,5. Il jouait 9 et il décrochait souvent. Et je pense que tu vois, dans une formation comme celle-là, si on dit que tu as Platini à droite et Zidane qui va à gauche, bah, Djorkaeff, il peut se balader. Et il peut être vraiment un deuxième attaquant, ou alors des fois, il peut décrocher. À la Coupe du Monde 98, c'est un deuxième attaquant, oui. Il n'est pas vraiment.
Si j'ai pas de bêtises, à la Coupe du Monde 90, ça faisait genre un truc genre 4-3-1-1-1, genre exactement. Zidane, Djorkaeff et Givars, enfin l'attaquant qui est devant. Quoi.
Et Djorkaeff qui se baladait un peu partout. Et Djorkaeff, c'est à la fois du Trezeguet, parce qu'il est.
C'est un finisseur incroyable.
Là, il est létal devant le but. Et en même temps, c'est un extraordinaire passeur, un très bon tireur de coup franc. Il a marqué contre l'Espagne à l'Euro. Ouais. Enfin, tu vois, il a toutes les qualités pour compléter en fait, cette équipe de France.
C'est vrai. Et Zidane en parlait d'ailleurs, il en a parlé dans moult interviews, hein, mais il parlait de Youri Djorkaeff comme un peu son pendant technique dans l'équipe de France 98, qui n'était pas forcément l'équipe la plus technique de l'histoire de France. Hein, mais c'est vrai que pour finir sur Youri Djorkaeff, il était quand même tellement fort que j'ai fini par regarder des matchs de Kaiserslautern. Non, mais c'est vrai.
Ah, c'est-à-dire que il a même été champion avec Kaiserslautern.
Ouais. Non, je crois qu'il arrive après l'année où
il arrive après.
Voilà, ouais. Mais c'est vrai que ce gars-là, il était quand même archi spectaculaire, quoi. C'est ça qui était fort. Et c'est Boris, toi qui es fan de maillot, c'est le maillot de l'Inter.
C'est son numéro 6. Oh,
et ce but avec l'Inter, bon,
oui,
c'est pas l'équipe de France là.
Côté,
là. Ah ouais, incroyable.
Et tu sais que le PSG, il a le numéro 6 aussi, je sais pas. Et donc il avait le numéro 6 en équipe de France. Je n'ai jamais su pourquoi.
Ouais.
Mais c'est un numéro iconique du coup. Tu vois, Djorkaeff avec le 6 comme ça.
C'est complètement vrai.
Et ouais, cette façon de dézonner, en même temps d'être terrible devant les buts, enfin il y a un truc et sur coup de pied arrêté, ouais. Tu vois, en finale c'est lui qui tire le coup de pied arrêté pour Zizou, enfin
et puisque comme se plaît à le dire Abdallah, Banquette c'est aussi de la culture et que on a des recommandations YouTube, c'est aussi une carrière de chanteur, Youri Djorkaeff.
Vivre dans ta lumière. Ta lumière tout court.
Ouais, je crois que c'est ça.
J'avais pas osé lui en parler quand j'ai fait son interview dans Banquette, justement.
Ouais. Il avait un magnifique gilet en cuir noir dans le clip que je vous invite à aller voir.
Et il figure dans Love United aussi de Youssou N'Dour.
Exactement.
Ah ouais.
On vous mettra les liens des vidéos.
Ça
dans l'épisode de Banquette, Abdallah.
Ça, c'est de la référence culturelle. Absolument, c'est de la référence culturelle.
Et toi, Abdallah, du coup?
Alors, Henri, pas trop de débat, meilleur buteur de l'équipe de France, des buts à l'appel, enfin pas besoin de s'étaler là-dessus. Et ensuite, en deuxième attaquant, j'ai mis un pari un peu sur l'avenir, c'est pas Mbappé, je vous le dis tout de suite, j'ai mis Antoine Griezmann. Le cerveau d'Antoine Griezmann, le cerveau de footballeur d'Antoine Griezmann, il est juste exceptionnel. C'est en termes d'intelligence de jeu, t'as cité Djorkaeff, Boris. Moi, c'est un peu dans il fait partie un peu de cette race-là, en fait, d'attaquant qui n'est pas pur neuf, qui pourrait jouer 9, qui pourrait jouer 9,5, qui pourrait, je pense aussi, jouer 10. Il est tellement fort dans la lecture du jeu, dans la compréhension du jeu, dans l'orientation de l'organisation, qu'en fait, sur le front de l'attaque, il est trop fort. Et moi, je le mets là parce que, voilà, je voulais faire une attaque aussi de 2 étoiles. Donc, j'ai Henry, et là, j'ai Griezmann. Et je ne sais pas si, pour les gens, il restera dans la légende comme un des meilleurs attaquants français de l'histoire. Si les gens vont pas lui préférer, je sais pas, Trezeguet ou plus tard Mbappé, j'en sais rien, tu vois. Mais je voulais mettre Griezmann là, du coup. Hein.
Mais je pense que tu as raison, footballistiquement, indéniablement. Et tu soulèves une question super importante. Et c'est est-ce que les joueurs d'aujourd'hui, tu parles de Griezmann, on pourra parler de Mbappé certainement dans quelques années, vont réussir à entrer dans une espèce d'imaginaire collectif, de légende collective comme ça, aussi facilement que je me retrouve moi aujourd'hui à parler d'Alain Giresse, alors même que je ne l'ai jamais quasiment vu jouer de mon vivant. C'est-à-dire que c'est par rapport, ça c'est une question qui est limite philosophique, par rapport à l'image des joueurs aujourd'hui dans l'esprit collectif, parce que je pense qu'en termes de niveau de jeu et en termes de ce qu'il a accompli, Antoine Griezmann, il va finir par la mériter cette place dans le 11 de légende. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup quand même de... Je vais faire le bisounours, hein, mais beaucoup de haine, beaucoup de...
Réseaux sociaux.
Beaucoup de haters, de tout ce que tu veux. J'ai l'impression que là, au moment où ce podcast va être publié, les gens vont dire « Ah, Abdallah, il a mis Griezmann, mais c'est quoi alors qu'il y a Trezeguet, etc. » Mais au fond, c'est complètement normal que tu parles d'Antoine Griezmann aujourd'hui. mais j'ai l'impression qu'on a du mal à faire des joueurs d'aujourd'hui des légendes.
Ouais, ouais, en plus, pour revenir sur le cas Griezmann, à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France, il suffit d'aller sur Twitter, genre pendant le match et après le match, il y a ceux qui vont dire ouais, Griezmann, le cerveau de Griezmann, quelle intelligence de jeu, incroyable, masterclass, les passes, tout ce que tu veux. Et l'autre, ah, mais non, il a rien fait, cette Coupe du Monde, il a fait que tirer les pénaltys. C'est l'époque, c'est exactement ce que t'as dit, Swan, c'est l'époque, j'ai l'impression qu'il veut ça, c'est qu'on a du mal un peu à prendre le temps d'apprécier ce que font les joueurs, avoir un peu de recul, se remater les matchs, parce qu'à l'époque, peut-être qu'on n'avait pas Internet comme maintenant, ouais, mais...
C'est exactement là où j'allais en venir, c'est que là où je rejoins Swan, c'est que je pense qu'aujourd'hui, notre vision du football et des joueurs, elle est galvaudée par la pseudo-connaissance qu'on pense avoir d'eux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on les connaît beaucoup mieux parce qu'on a accès à beaucoup plus de choses. Et que, comme tu parlais de Gires, je pense que si tu parlais à mes grands-parents de Lino Ventura, ils vont te dire Lino Ventura, c'était limite une légende, enfin un demi-dieu, tu vois, un truc, on ne le voyait pas dans la rue, on ne le croisait pas. Si tu le croisais une fois dans ta vie, c'était un truc extraordinaire. Aujourd'hui, tu as une telle proximité, enfin... virtuel avec les joueurs, qu'on a du mal à s'identifier à eux, je trouve, à s'identifier, en tout cas à les rendre un peu comme des icônes, même si tout est fait pour, finalement, le moindre de leurs écarts casse l'image que tu peux avoir du joueur, et on va mélanger subjectivement avec notre perception de son caractère ou de je sais pas quoi. Donc c'est ça qui pourrait empêcher peut-être Griezmann à terme d'être dans un 11 de légende. C'est pas ses qualités de footballeur, parce qu'encore une fois, moi il me fait penser beaucoup à... Quand je parlais de... Enfin, tu vois, on disait de Djorkaeff, ils ont des similitudes dans leur jeu. Tu vois, de ce truc de déplacement, etc. Est-ce que Djorkaeff, les gens, ils le connaissent aussi bien? Je suis pas sûr, parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas autant accès à ce truc.
Après, on revient dans un autre débat. Hein. Moi, puisqu'on est là-dedans, pour moi, Antoine Griezmann, c'est le meilleur footballeur français aujourd'hui. Il n'y a pas de...
Je suis d'accord.
Il n'y a pas de débat, mais c'est vrai que... Voilà. Donc, on se retrouve avec Thierry Henry à l'unanimité.
Sûr, et on a une bataille à trois entre, du coup, Griezmann, JPP... Et Djorkaeff.
Alors je
sortez vos arguments, messieurs.
Je sors mon collier de l'immunité et non et je vais.
Moi j'ai le vote noir. Hein,
je vais rejoindre Boris.
Sur Djorkaeff.
Parce que j'ai failli le dire et parce que pour le coup il a une bonne gueule de légende le Yuri et puis parce que j'ai donné beaucoup d'arguments en ta faveur sur Antoine Griezmann déjà.
c'est un mec sympa aussi. Après, aussi ça peut peser aussi.
Après,
c'est un mec
peut-être
très
que
sympa.
Peut-être que dans 2 ans ou dans 4 ans on aura un autre regard sur les Bleus de 2018 et qu'il y aura plus de joueurs.
Qu'on dira
dans...
Olivier Giroud.
C'est le nom que je voulais sortir après qu'on ait établi justement ce duo, mais bon allons-y. Un mec comme Giroud par exemple je pense qu'il va faire ses stats. Il va faire ses stats en termes de nombre de buts en équipe de France, il va les faire, pas de problème là-dessus. Mais dans l'impact,
c'est un débat qui est terrible parce qu'il relève notamment de l'esthétisme. Je vais faire un parallèle que je connais pour travailler quand même beaucoup en Belgique. Je parle de chiffres. Romelu Lukaku, il est né en 93, il me semble. Et il est déjà meilleur buteur de l'histoire de la Belgique devant des gars qui ont marqué l'histoire du pays. Et pendant très longtemps et jusqu'à un passé très très proche, il avait une relation extrêmement extrêmement tumultueuse avec les supporters des Diables Rouges, qui lui reprochaient tout un tas de choses, certes, mais les observateurs notamment et les fans de United en tête aujourd'hui lui reprochent son côté un peu frustre. Au final, il y a une analogie entre Giroud et Lukaku qui est assez facile à faire, mais en termes de score, il a tout pété. Et encore, il y a 2-3 semaines, lors des derniers matchs de qualification de la Belgique, il marque encore et encore. Est-ce que ça va faire de lui une légende? Est-ce que ça va faire d'Olivier Giroud? Voilà, le degré de respect qu'on va leur témoigner, j'ai l'impression qu'il va être plus dû aujourd'hui à de l'esthétisme ou de la sympathie qu'à des chiffres.
Ouais.
Et quelque part, ça me rassure un peu parce que je ne suis pas forcément un apôtre du règne de la statistique. Mais aujourd'hui, ouais, Giroud, il va faire son taf en termes de chiffres. Je persiste à dire qu'on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde sans lui. Mais il va lui manquer un truc, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Alors, Boris ?
Moi, j'ai une réponse. Hein. Je pense que ce qui lui manque, c'est d'être décisif, en fait, finalement, à des moments charnières de l'histoire du football français. Si je dois faire moi-même une analogie avec Trezeguet, ce qui fait la différence entre Trezeguet et Giroud, c'est pas forcément... Bah, il a mis plus de buts que Trezeguet. Mais pour moi, Trezeguet, ça reste un meilleur attaquant parce qu'il a mis le but qui fait qu'il est rentré dans l'histoire du football français avec une reprise de volée qui donne le but en or, qui nous donne l'euro. Tu vois, ou alors c'est même ça, la tête, la remise pour Laurent Blanc contre le Paraguay, où il a 20 piges, il est pas titulaire, il rentre, il fait une remise de ouf, et ça nous qualifie.
Ouais.
Tu vois, c'est des moments qui finalement s'inscrivent dans la mémoire collective comme des moments, voilà, c'est des tournants dans l'histoire du football français. Giroud, il a des stats, il est très fort, ça restera un très 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 bon joueur qui va bien dans le collectif, mais pour moi, il lui manque ce truc de c'est pas de l'esthétisme. C'est comment et finalement ils se rendent décisifs dans l'histoire.
Bah pour moi en fait c'est un problème d'esthétisme pour une raison, c'est que la comparaison que tu fais, selon moi, elle est valable pour Karim Benzema. C'est-à-dire que Karim Benzema, ce qu'on lui reproche en équipe de France, c'est plus ou moins de jamais avoir été décisif et de, ou en tout cas de pas avoir prouvé un dixième en équipe de France de ce qu'il a montré au Real Madrid. Ça c'est une vérité. En revanche Giroud, j'ai vraiment l'impression qu'on lui fait un procès qui, je dis pas, n'est pas injustifié dans le sens où il n'est pas beau à voir jouer, il sert à peu de choses quand on a le ballon dans certains mouvements, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'on lui reproche beaucoup de son style de jeu, de sa dégaine, de qui il est, en fait, plus que...
Benzema, après, on lui reproche à la fois le côté décisif et en même temps le côté statistique. C'est-à-dire que même dans les chiffres, il n'est pas là où on pouvait l'attendre. Après, il n'a pas été non plus décisif dans des grands matchs. Pas à la Coupe du Monde en 2014, tu vois. Si quelqu'un doit nous sauver, c'est lui. Et il ne nous sauve pas. Donc, c'est ça qu'on lui reproche. Finalement, Giroud, on lui reproche juste son manque d'esthétisme.
Est-ce qu'on va finir cette émission sans parler de Nicolas Anelka, du coup ?
Ah, pardon. J'ai cru d'aller parler si on allait finir cette émission en parlant de Giroud. Nico, bien sûr. Bien sûr, un mot sur Nicolas Anelka. France-Angleterre. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire.
Doublé.
France-Angleterre. Même son retour. Moi, son premier retour en 2005... Quand Dominic le rappelle, ah, j'étais hypé comme jamais. Ouais. Quand il joue en Martinique, là, contre le Costa Rica, j'étais tellement content de le revoir en équipe de France. Je pensais que ça allait jamais se produire. Et en fait, il revient. Il fait pas la Coupe du Monde, malheureusement. Malheureusement ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il la fait pas. Mais ouais, Anelka, ouais, gros crush sur Nico. Ouais.
Mais après, éternel espoir, tu vois, finalement, qui a jamais pu confirmer les espoirs qu'on avait en lui. Il fait un bon Euro 2000. Tu vois, et j'étais très content parce qu'il part pas à l'Euro 98 alors qu'il était dans le groupe.
Ouais.
Et finalement, l'Euro 2000, ça a été la confirmation que c'était un très bon joueur, mais il a pas confirmé les attentes qu'on avait en lui. Tu vois, c'est un peu à l'image de sa carrière. Des coups, tu vois, tu parles de Wembley quand il met le doublé en Angleterre, il a 20 piges.
Avec le Real aussi, quand il marque un but c'est en demi-finale, je crois.
Contre le Bayern, exactement. Ouais. Il met à l'aller et au retour, hein, même.
Ouais, c'est ça.
Il me semble. Donc, tu vois, un mec de coup et finalement, mais tu vois, qui a eu du mal à s'imposer dans la durée. Et Anelka, c'est un peu à la Kanto, hein, tu vois, un mec, tu t'attends au meilleur et puis finalement, ça arrive vraiment jamais et puis ça se finit dans le déchirement. C'est un peu, ça se finit avec beaucoup de fracas.
Et j'ai envie de finir là-dessus. On verra si on a encore du temps pour débattre. Mais le cas Kylian Mbappé, par exemple, on sait que il est très jeune, il est absolument pas admissible dans cette équipe-là, on est complètement d'accord. Mais si on se projette un peu, si sur les bases de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on peut voir aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'à terme, il aura sa place dans une équipe comme celle-là ?
Écoute, s'il est promis à l'avenir qui semble lui avoir décidé d'avoir, il aura forcément sa place, puisqu'on parle de ballon d'or. Donc, qui dit ballon d'or dit titre. Donc, tu gagnes pas le ballon d'or parce que t'as marqué le plus grand nombre de buts en Europe. Donc, à un moment donné, ça voudrait dire qu'il a peut-être pris un euro, puis encore une Coupe du Monde. Il a que 20 ans. Si c'est pas la prochaine Coupe du Monde, ce sera peut-être la suivante ou même celle encore d'après, j'en sais rien. Pour l'instant, à 20 ans, avec la Coupe du Monde qu'il a faite, il peut pas être dans un 11 de légende encore, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire aussi pour juger de sa place et tu vois, de l'évolution de son jeu. Mais il a en tout cas les qualités aujourd'hui pour prétendre à y être un jour, mais pour moi, c'est prématuré.
Swan ?
Je suis d'accord et encore une fois, pour moi, avec Kylian Mbappé, on va très vite, je sais pas, d'ici une petite décennie, revenir dans le même débat que je soulevais tout à l'heure par rapport au fait d'être capable d'apprécier le talent de quelqu'un en dissociant complètement sa personnalité qui aujourd'hui commence à faire débat pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pas à moi d'en juger, mais d'un point de vue purement footballistique, c'est quand même un gamin qui est sur l'autoroute de la réussite, donc... Si on est encore là dans 20 ans pour faire un podcast du futur sur le 11 de légende de l'équipe de France, je pense bien qu'il y sera.
Bah écoute, on verra. Donc du coup, cette doublette, c'est Henry et Djorkaeff. Donc, ça aurait pu être Griezmann, mais c'est, comme tu l'as dit, Boris, c'est des profils un peu similaires. Moi, ça ne me choque pas du tout. Donc du coup, je vais récapituler cette équipe de France de légende. Donc, dans les cages, on a Fabien Barthez. Correct. Ensuite, en défense à gauche, on a Vicente Lizarazu. À droite, Willy Sagnol. En charnière centrale, Laurent Blanc et Marius Trésor. Un carré magique, j'ai envie de dire, composé de Vieira, Deschamps, Zidane et Platini. Et la doublette pour marquer les buts, Henry et Djorkaeff. Et c'est vrai que cette équipe, elle est quand même, je trouve, assez complémentaire. Notamment entre le milieu et l'attaque, avec Djorkaeff qui peut faire un peu, comme il le fait d'ailleurs, comme il l'a fait, se balader un peu.
Oui, ça peut défendre en 4-5-1, c'est bien.
Ouais, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Donc voilà l'équipe, le 11 de légende de l'équipe de France. Et comme Swan l'a balancé au tout début de l'épisode, on aurait pu aussi faire un 11 de légende des joueurs français, mais qui n'ont pas forcément marqué l'équipe de France. T'as parlé de Cantona. Moi, je pense à un mec comme Ribéry, par exemple. Si on s'essayait un peu à cet exercice de balancer voilà, quelques noms de joueurs qui ne sont pas forcément dans cette équipe, mais qui ont marqué l'histoire, ou qui auraient pu être dans cette équipe, mais qui ont marqué aussi l'histoire du football français.
Il y a David Ginola.
Ginola, on n'en a pas parlé. Pour,
hein. Ginola, Canto, on n'a pas parlé de Rocheteau.
Rocheteau aussi, oh. Pires. Voilà, il y en a plein. Si on commence par... Les gardiens de but, je pense qu'on les a un peu tous faits. Si on va sur le poste sur les postes de défenseurs, soit latéraux et centraux confondus, est-ce qu'il y a des noms comme ça qui vous reviennent, mais qui n'ont pas réussi à qui ne prétendent pas du coup à intégrer l'équipe de France.
Je disais tout à l'heure Marcel Desailly, tu vois. Pour moi, si on doit retenir un troisième derrière cette charnière là, je vois pas comment ça pourrait être sans Marcel Desailly. En 96, on a une équipe quand même qui est complètement différente de celle de 98. Alors, il y a des forces qui commencent à émerger, hein, mais un Vincent Guérin, à l'époque, il avait démontré qu'il était quand même un des meilleurs milieux d'Europe. Et il disparaît un petit peu en l'espace de 2 ans. Il disparaît complètement. Donc, c'est vrai que Vincent Guérin, à l'époque, donc il fait 2 finales de Coupe d'Europe d'affilée avec le Paris Saint-Germain en 96 et en 97. Il est à l'Euro 96. Il fait un euro très, très correct, d'ailleurs, puisque la France va jusqu'en demi-finale de l'Euro.
Moi à gauche par exemple j'ai beaucoup aimé Eric Abidal de 2006. Moi j'avais beaucoup aimé Eric Abidal en 2006. C'était vraiment
très fort, hein.
très fort, franchement top.
Et très fort avec le Barça la même année, hein, parce aussi qu'ils vont en finale de la Ligue des Champions. Donc,
il est déjà au Barça là.
Il est à Lyon encore.
Moi je crois il est encore à Lyon.
Ah, il est encore à Lyon.
Et il part, il me semble, cet été là justement. C'est l'été où il part. Ils prennent Grosso pour il me semble, pour le remplacer. Donc, ouais, un mec comme...
William Gallas aura fait une carrière en bleu aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, le début, ça finit plus compliqué quand même.
Mais c'est-à-dire que...
C'est l'équipe de France 2010, ouais, ça finit
voilà, c'est ça, c'est une équipe de France qui ne gagne pas non plus, mais il aura été quand même omniprésent.
C'est vrai.
Et très polyvalent. Dominic, il faisait jouer sur un côté. Ouais. Et je me rappelle toujours, il devait se remettre sur son bon pied pour centrer. C'était une galère. On a fait toutes les qualifs pour la Coupe du Monde comme ça. Bon, ça passe, que moi, je suis persuadé que c'est le retour des anciens, à savoir Thuram, Makelele, Zidane, qui fait qu'on se qualifie en 2006. Mais ouais, c'était un peu laborieux. Et moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Très, très fort. Vraiment, quand il était à Arsenal, Chelsea.
Après, sur la polyvalence, on a parlé de Carambeu non plus, mais qui a joué et à droite et en 6. Hein, et à la Coupe du Monde, c'est lui qui est titulaire. Parce qu'il est titulaire avec Deschamps et Petit. Parce qu'on joue avec justement 3 derrière Zidane. Et Carambeu, qui était extraordinaire à l'époque. On parle d'un joueur du Real Madrid, pareil, qui a gagné la Ligue des Champions, peut-être sous-coté aujourd'hui, mais qui était en plus un monstre physique, donc qui avait à la fois la technique et à la fois le physique, et qui a quand même bien porté l'équipe de France en 98.
Moi, il y a un joueur au milieu de terrain que j'aurais adoré voir plus longtemps, si les blessures l'avaient épargné, c'est Abou Diaby. Voilà. Moi, j'ai un match en tête quand.
Faut écouter Arsène Wenger à son sujet, hein, parce qu'il est dit tyrambique.
Ouais, c'est un France-Bosnie ou Bosnie-France, je crois, avec l'équipe de France. C'était Laurent Blanc, le sélectionneur. Il fait un milieu de terrain. Diarra, Diaby et. Je crois qu'il y avait les deux Diarra et Diaby. Il fait un match XXL. Vraiment, il était trop fort. Vraiment, trop, trop fort. Après, tu avais Benzema devant qui met, je crois, un doublé ou juste un seul but, mais qui aurait pu en mettre plus. Mais Diaby, il a crevé l'écran. Il était trop fort. Je me suis dit, mais ça, c'est le futur de l'équipe de France. Malheureusement, bon, je pense qu'on le sait tous, les blessures ont eu raison de son potentiel, de sa carrière, malheureusement. Mais c'est un mec que j'aurais aimé j'aurais aimé voir plus longtemps en équipe de France.
Après, on en a parlé un petit peu, mais Luis Fernandez, tu vois, c'est pas un point de basse qui peut se projeter. C'était la référence aussi à son poste dans les années 80. Tigana, pareil. Que ça soit à Bordeaux, à Marseille, qui a démontré tout, enfin, qui faisait partie des légendes de l'équipe de France. En tout cas, sur l'Euro 84, le carré qu'il faisait avec Platini, Fernandez et Giresse. Voilà. Je sais pas qui on pourrait citer encore pêle-mêle comme ça.
Après, mais... si on passe devant, il y a des joueurs qui sont un peu exclus de cette équipe-là si on joue en 4-4-2 en losange. C'est les joueurs vraiment typiquement de couloir.
Moi, ouais.
Un mec comme Malouda.
Florent Malouda.
Sylvain Wiltord, les gars.
Wiltord,
hein.
Qui marque... lui, pour le coup, il aurait pu jouer dans... Mais après, c'est...
En 4-3-3, peut-être que...
Mais même dans le 4-4-2, ouais. Parce qu'il joue... à l'Euro, on joue plus en 4-4-2 quand même. Ouais. Donc on a... Et c'est d'ailleurs lui qui rentre, il fait la tête.
Il marque, il trompe Toldo
sur une frappe croisée, ouais.
Je sais plus qui fait la déviation, c'est pas.
Je sais plus, ouais. Mais typiquement des joueurs comme ça, comme Pires, comme Ribéry, comme Wiltord, des Malouda, des joueurs vraiment typiquement que de couloir. Ouais, c'était un peu chaud pour eux d'intégrer cette équipe-là, mais moi Wiltord en plus je l'aimais bien. Il me semble que c'est toujours un des top meilleurs buteurs
de l'équipe de France.
On a tendance un peu à l'oublier, mais c'était un joueur qui marquait, qui était assez
très fort.
Très 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 fort. Bon, je l'ai beaucoup aimé aussi à Arsenal.
Arsenal.
J'ai découvert à Rennes après Arsenal. Non, il va à Rennes
Bordeaux,
après. Je crois.
Il part de Bordeaux. Ouais, part de Bordeaux. Il est champion avec Bordeaux.
Il est formé à Rennes.
Voilà, c'est
il
ça.
Il va à Bordeaux, ouais, Bordeaux. Champion avec Bordeaux. Et il va à Arsenal. Après, je ne sais plus trop dans quel ordre. Il fait Lyon.
Il a fait Lyon, Marseille. Il a joué à Nantes aussi.
Ouais, mais il retourne à Rennes, non?
Ouais, il est à Rennes et il est allé à Nantes également. Ouais.
Par contre, sa coupe de cheveux à Bordeaux, ça allait pas du tout. Hein. Ça, moi, j'étais pas fan du tout. Les cheveux décolorés, teinture blonde.
Tes coupes de quand t'étais petit.
Ouais, elles sont claires. Toujours les contours soins. Donc, écoutez, on a balancé plein de noms comme ça, des joueurs qui auraient pu être, qui ont marqué en tout cas le football français. Mais on a notre équipe de légende. Est-ce qu'elle vous va, messieurs? Est-ce que ça vous va?
Elle me va très bien.
Très bien.
Très bien, très bien, très bien. Je pense qu'on va finir cet épisode là-dessus. Juste avant de rendre l'antenne, non, c'est pas exactement le terme parce qu'on n'est pas à l'antenne, juste un petit mot sur votre actualité cet été. Est-ce qu'on pourra vous voir, vous écouter, vous lire? Swan, t'es à la télé belge en ce moment?
Pas jusqu'à la rentrée. J'espère que vous n'allez pas me voir cet été, tout simplement.
Ni
m'entendre. Voilà.
J'espère que je verrai Swan un petit peu quand même.
Mais reprise à la rentrée, à la télé belge, la Ligue Europa. Puis toujours chez Bros avec Boris.
Très bien. Et toi, Boris?
Toujours chez Bros avec Swan pour copier un petit peu. Un petit peu à Bine encore, mais ça va bientôt être la fin de la saison. Après, on part en vacances.
Et aussi dans mon quête dans deux semaines pour parler de la Coupe du Monde féminine, faire un grand débrief du tournoi et des Bleus aussi. Et peut-être que l'année prochaine, on pourra faire un 11 de légende des Bleus ES. Ce serait pas mal aussi.
Avec plaisir, un très grand plaisir.
Voilà. Écoutez, messieurs, merci beaucoup.
Merci.
Bienvenue dans mon quête. J'espère que vous avez apprécié faire ces 11 de légende.
C'est toujours un plaisir.
Et vous aussi, ceux qui nous écoutez, vous appréciez ce format-là. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous prenez autant de plaisir à l'écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.
Salut.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Montage et mixage de Laurie Galigani et à la prise de son, Ashley Tola. Merci à Swan et Boris d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et faites aussi votre 11 de légende de l'équipe de France. Pensez aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, donnez-nous plein d'amour. Et moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao !